Bonjour, au micro Idrissa Soudoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Nigeria, des combattants djihadistes ont attaqué à la roquette hier soir Maïdougouri, dans le nord-est du pays, pour semer la panique au sein de la population, alors qu'elle se préparait pour les célébrations de la fête musulmane de l'Eid al-Adha, selon les services de secours. On déplore 4 morts et 3 blessés. Les habitants de Maïdougouri, capitale de l'état du Borno et berceau du groupe djihadiste Boko Haram, se préparaient à célébrer aujourd'hui l'Eid et les marchés étaient encore bondés à la tombée de la nuit. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque suicide qui, le 23 juillet, a coûté la vie à un soldat français dans le nord du Mali. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pilier du régime du président Alassane Ouattara, a été nommé hier Premier ministre à 3 mois de l'élection présidentielle et 3 semaines après la brusque disparition d'Amadou Gon Koulibaly, dont il assurait l'intérim. Nous y reviendrons avec Yacouba Ouédraogo. En République démocratique du Congo, des bandes criminelles ont enlevé contre rançon au moins 170 personnes à proximité du parc national des Virunga, entre avril 2017 et mars 2020, selon un rapport publié hier par Human Rights Watch. De petits groupes armés de fusils et de machettes ont battu, torturé et assassiné des otages, violant les femmes et les filles qui représentent plus de la moitié d'entre eux, tout en recourant à des menaces pour extorquer de l'argent à leur famille, a écrit cette organisation américaine de défense des droits de l'homme. Et selon les victimes et les familles qui ont demandé l'aide de la police, celle-ci n'aurait rien fait pour retrouver les responsables de ces actes. Après 5 mois de fermeture pour cause de coronavirus, les bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle vont rouvrir à partir de ce vendredi en Côte d'Ivoire, a annoncé hier le gouvernement. L'état d'urgence est cependant maintenu jusqu'au 31 août et les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les frontières aériennes avaient été rouvertes le 1er juillet. Les rassemblements sont de nouveau autorisés sur l'ensemble du territoire. On déplore en Côte d'Ivoire 15 813 cas, dont 99 décès. L'économie mondiale est désormais frappée de plein fouet par la récession qu'a provoquée la pandémie, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, tandis que l'OMS appelle les jeunes à ne pas baisser la garde face à la résurgence de la maladie. Le PIB des États-Unis, plus de 1200 morts en 24 heures pour le troisième jour consécutif et un total de 151 826 décès, ainsi que 4,5 millions de cas, a accusé une chute historique au deuxième trimestre. Le Mexique est devenu hier le troisième pays du monde en termes de décès, en dépassant la barre des 46 000 morts. Après les États-Unis et le Brésil, il devance le Royaume-Uni. Le président américain Donald Trump a ouvertement évoqué hier un possible report de l'élection de novembre, mettant en avant, sans preuve selon ses critiques, des risques de fraude liés à l'épidémie de COVID-19 et au recours élargi au vote par correspondance, idée immédiatement rejetée aussi bien par ses adversaires démocrates que par les ténors de sa famille politique, dont Mitch McConnell, le chef de file des Républicains au Sénat. Selon la Constitution américaine, seul le Congrès peut prendre une initiative en ce sens. En Arabie Saoudite, les pèlerins ont invoqué jeudi en nombre réduit le pardon de Dieu sur le mont Arafat, près de la Mecque. Notamment moment fort du Hajj qui a été abrégé en raison de la pandémie dans un contraste saisissant avec les grands rassemblements des années passées. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, vous êtes en compagnie d'Idrissa Soudoudia. La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé Ahmed Bakayoko Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly dont il assurait l'intérim. Yacouba Ouédraogo.
Perçu comme le monsieur sécurité du régime, le nouveau Premier ministre, 55 ans, conservera sa fonction de ministre de la Défense qu'il occupe depuis 2017, après avoir été ministre de l'Intérieur depuis 2011. Ahmed Bakayoko est aussi maire de la commune abidjanaise d'Abobo depuis 2018. Ambak, comme le surnomment les Ivoiriens, a milité depuis sa jeunesse dans le parti d'Alassane Ouattara, dès sa fondation en 1994, le RDR, aujourd'hui fondu dans le RHDP. Il en a dirigé l'organe de presse Le Quotidien, Le Patriote. Ahmed Bakayoko est ensuite devenu ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans les gouvernements d'Union nationale de 2003 à 2011 pendant la crise. À 3 mois de la présidentielle, il devra relever le défi de ramener l'opposition à la table des négociations pour réussir une élection apaisée. L'opposition considère que la commission électorale et ses représentations locales sont déséquilibrées en faveur du pouvoir, malgré une réforme réalisée l'an dernier. Elle conteste aussi le droit d'Alassane Ouattara à briguer un troisième mandat.
Au Zimbabwe, les forces de sécurité sont en alerte maxima avant des manifestations interdites prévues. Un parti d'opposition a appelé à protester contre la corruption et la crise économique. Eric Manirakiza.
Nous rappelons qu'aucune manifestation n'aura lieu le 31 juillet 2020, a déclaré le porte-parole de la police, Paul Nyati, à Harare. Toutes les forces de sécurité sont placées en alerte maximum et interviendront de façon décisive contre tout individu ou groupe qui fomentera des violences, a-t-il mis en garde. Ceux qui vont proférer des menaces ou lancer des messages provocateurs via les médias sociaux ou autres seront aussi visés par la police. Hier matin, les forces de sécurité ont patrouillé le centre de la capitale et vidé les rues. Dans l'après-midi, le centre-ville était désert et la plupart des magasins fermés. L'opposant Jacob Ngarivume, chef du parti transformé le Zimbabwe, a été arrêté la semaine dernière après avoir appelé à manifester vendredi. Le même jour, le journaliste et lanceur d'alerte Opoel Chinono a été interpellé pour avoir révélé des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les autorités ont durci les mesures de confinement, interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes.
La Floride, l'un des États américains les plus touchés par le COVID-19, a enregistré hier un record du nombre de morts pour le troisième jour consécutif. Abdurrahman Dia.
Cet État du sud-est du pays a déploré 253 décès en une journée, ont annoncé les autorités sanitaires locales, surpassant les 216 morts de mercredi et les 186 mardi. Le nombre total de victimes en Floride depuis le début de la pandémie s'élève à près de 6600. Par ailleurs, près de 10 000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été diagnostiqués en une seule journée jeudi, un niveau qui se maintient depuis plusieurs semaines. Au total, la Floride compte plus de 461 000 cas détectés depuis le début de la pandémie. Avec 21 millions d'habitants, cela signifie qu'une personne sur 50 a été infectée dans l'État. Un quart des cas sont concentrés à Miami, où seuls 9% des lits en unité intensive sont actuellement disponibles. C'est dans ce contexte inquiétant que la Floride se prépare à l'arrivée d'une tempête tropicale qui va forcer la fermeture temporaire de certains centres de dépistage du COVID-19 par précaution.
La Minute Éco, John Linden.
En République démocratique du Congo, Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, a menacé d'imposer une pénalité de 5% du chiffre d'affaires aux opérateurs de téléphonie mobile accusés d'entretenir la surchauffe sur le marché d'échange. Le taux interbancaire officiel est de 1971 francs congolais pour 1 dollar. Mais pour recharger du crédit téléphone chez Vodacom, il faut débourser 2050 francs congolais et pour l'opérateur français Orange, le taux est de 2055 francs congolais pour 1 dollar. Au premier trimestre, les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile, qui se partagent plus de 30 millions d'abonnés en RDC, ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 381 millions de dollars. En Afrique du Sud, le producteur d'acier ArcelorMittal a vu ses revenus baisser ce semestre du fait de la chute de la demande d'acier. Le plus grand producteur d'acier d'Afrique a déclaré que sa perte globale était passée à 157 millions de dollars pour les 6 mois se terminant le 30 juin contre une perte d'environ 40 millions de dollars un an plus tôt. Les compagnies pétrolières ont révisé à la baisse la valeur de leurs actifs pour cause d'effondrement des cours du brut et de la demande. Total annonce une perte de 8 milliards de dollars, 18 milliards de dollars pour l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell. L'aéronautique paye également un lourd tribut. L'avionneur européen Airbus a accusé une perte nette de 1,9 milliard d'euros. Son grand rival, Boeing, a perdu 2,4 milliards de dollars et prévoit de réduire les cadences de production, licencier et cesser la production du mythique Jumbo Jet 747 en 2022.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Cette triste affaire pour commencer. Une enquête du média américain ESPN dénonce les conditions de vie dans les académies de basket développées par la NBA en Chine. Cette enquête révèle que de jeunes joueurs sont physiquement maltraités et scolairement laissés à l'abandon. Un ancien entraîneur a déclaré à ESPN avoir vu un homologue chinois lancer un ballon au visage d'un jeune joueur et lui donner un coup de pied dans le ventre, voir un enfant de 13 à 14 ans et son entraîneur de 40 ans qui le frappe. Nous sommes complices, la NBA est complice, a-t-il dit. De nombreux entraîneurs ont dénoncé des châtiments corporels, notamment dans l'académie NBA du Xinjiang, la région où la Chine est accusée d'atteinte aux droits de l'homme contre la minorité musulmane ouïghoure. La NBA assure avoir coupé les ponts avec le Xinjiang depuis plus d'un an, mais continue de gérer des académies dans les provinces de Shandong et de Zhejiang. En football, une enquête à l'encontre du président de la FIFA, Gianni Infantino, a été ouverte dans le cadre de l'affaire de corruption dite FIFA Gate. Le procureur fédéral suisse dit ouvrir une procédure pénale contre Infantino et le premier procureur du Haut-Valais, Rinald Arnold, pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et entrave à l'action pénale. La semaine dernière, le chef du parquet suisse, Michael Lauber, a démissionné parce que mis en cause pour sa gestion du FIFA Gate et soupçonné de collusion avec M. Infantino. Michael Lauber, alors en charge de l'enquête sur le FIFA Gate, et Gianni Infantino se sont en effet rencontrés de façon informelle à plusieurs reprises en 2016 et 2017, soulevant des interrogations sur une éventuelle collusion. Athlétisme, la Fédération internationale a accordé à la Fédération russe un ultime délai jusqu'au 15 août pour payer ses amendes pour violation des règles antidopage. Faute de quoi, une procédure d'exclusion sera immédiatement et automatiquement enclenchée. La Fédération russe avait jusqu'au 1er juillet pour payer une amende de 5 millions de dollars et 1,31 millions de dollars pour les coûts des procédures en cours, mais n'a pas réalisé ses versements à la Fédération internationale. Le ministre russe des Sports, Oleg Matitsin, a toutefois envoyé jeudi une lettre à World Athletics promettant de régler les 6,31 millions de dollars à la date du 15 août. La Russie est au centre d'un vaste scandale de dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015. La RUSAF est suspendue depuis le 13 novembre 2015.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la Tabaski sera célébrée ce vendredi. Un rendez-vous crucial dans ce pays à majorité musulmane où la pression sociale est insoutenable pour certains ménages. Plusieurs cas de suicide de chefs de famille qui n'ont pas les moyens d'acheter un mouton sont régulièrement relatés par la presse locale. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Des moutons hors de prix, des obligations familiales intenables et une conjoncture accentuée par la Covid-19, les chefs de famille vivent un véritable calvaire à l'occasion de cette fête de l'Eid, particulièrement difficile à gérer, comme l'affirme Pape Ndiaye.
On est obligé d'acheter un mouton, de satisfaire les besoins de la famille. Et la pandémie ne nous arrange pas parce que les prix ont été doublés et tout, voilà. Si on voit comment évolue la société, faudrait pas laisser son enfant sur la marge parce que de voir tous les enfants s'habiller et de voir son enfant ne pas avoir les mêmes satisfactions que les autres enfants, ça crée une distanciation sociale et c'est pas très bon. Donc faudra tout faire pour satisfaire les besoins des enfants.
Et pour satisfaire les vœux des enfants, les mamans également se démènent comme elles peuvent pour venir en appoint. Fatou Sek estime que la pire pression sociale pour un parent est la sensation de ne pas pouvoir combler son enfant durant ce genre de fête.
Quand tu es mère de famille, ton vœu le plus cher est de voir ton enfant bien habillé comme les autres, de voir son père amener un beau billet à la maison. Sinon, les petits seront frustrés. Un adulte peut comprendre la conjoncture entraînée par la pandémie, mais un enfant, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir tout ce que ses camarades ont. C'est pourquoi, maintenant nous les mamans, on n'attend plus que le chef de famille fasse tout. On essaie aussi de nous débrouiller pour que tous les besoins de la famille soient satisfaits, même si les temps sont durs.
Pourtant, cette pression pouvait être évitée si les gens se limitaient aux recommandations religieuses. C'est l'analyse de l'imam Ibrahim Aïdara qui affirme que la démesure de la société sénégalaise est à la base de la pression sociale qui entoure l'Eid.
Il n'est pas recommandé d'aller faire des prêts ou endosser des dépenses intenables qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses après la fête. Malheureusement, les Sénégalais ne se limitent jamais à ce qu'on lui demande de faire. Et en général, cela se perçoit dans la façon dont on aborde certains événements. On célèbre même des fêtes qui n'ont aucun rapport avec notre religion ou notre culture. La Tabaski est une fête qui doit être empreinte de sobriété. Alors les Sénégalais doivent éviter les dépenses grossières, les moutons hors de prix et se limiter strictement aux principes édictés par l'islam qui bannissent tout cela.
Année après année, la manière de fêter la Tabaski s'éloigne de plus en plus des recommandations religieuses. Le côté faste de la célébration est mis en avant, créant ainsi des tensions financières chez les moins nantis. Ces derniers se sentent souvent obligés d'assurer des dépenses faramineuses que ni la logique ni la religion ne cautionnent. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, le gouvernement fédéral a exhorté les gouverneurs à annuler toutes les festivités de l'Eid el-Adha dans leurs états respectifs à cause de l'augmentation des cas d'infection au coronavirus. Le Nigeria a la plus grande population musulmane d'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Près de 90 millions de musulmans au Nigeria s'apprêtent à célébrer la Tabaski ce vendredi 31 juillet, en pleine crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. La Tabaski, fête du sacrifice pour les musulmans, est une des célébrations et des retrouvailles familiales. Moussa Olaoufé est l'imam de la mosquée du groupe de la société Ansar Oudin d'Abuja.
Le coronavirus est réel, il n'y a pas de doute à ce propos. Donc si le gouvernement a pris des mesures pour protéger les gens, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas important si la fête sera célébrée en grande pompe ou quelque chose comme ça. Parce que lorsqu'il y a une pandémie, on doit faire très attention.
À cause de la pandémie cette année, la Tabaski, souvent appelée à tort la fête du mouton, sera bien différente des autres années. Les autorités fédérales ont envisagé des mesures d'interdiction des rassemblements de masse dans le pays. Le gouvernement demande aux citoyens de ne pas se livrer à des activités qui facilitent la propagation du virus. Khalid Aboubakar est le secrétaire général de la coordination de la communauté musulmane du Nigeria.
La Ligue islamique a pris des mesures pour éviter les grands rassemblements. La grande prière doit être organisée dans chacune des mosquées communautaires sans se déplacer. Et pour ceux qui vont se déplacer, ils doivent respecter la distanciation physique.
De nombreux citoyens des villes et des villages ne pratiquent pas la distanciation sociale dans les mosquées et autres lieux de rassemblement, ce qui augmente les risques. Comme il ne reste que quelques heures avant le sacrifice des moutons, les musulmans se précipitent pour faire les derniers achats. Le marché de Nyanya est le lieu le plus populaire pour l'achat des moutons. Abdoul Laval vend les moutons depuis plusieurs années.
Cette année, le prix des moutons a augmenté parce que l'année dernière, nous n'avions pas vendu un mouton à 150 000 ou 170 000 naira. Pas un seul mouton n'a été vendu à plus de 120 000 ou 130 000 naira l'année dernière. Mais cette année, il y a une augmentation. Nous ne savons pas la raison. Nous-mêmes qui vendons les moutons. Peut-être le Covid-19. Tout est devenu cher.
Le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec ses voisins l'année dernière pour enrayer la contrebande. À cela s'ajoute la crise économique à cause du Covid-19 qui a provoqué une augmentation significative des prix des produits de première nécessité. La Tabaski est un moment de partage et de convivialité, même si beaucoup ne peuvent pas s'offrir un mouton. D'autres achètent des poulets pour faire la fête en famille. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
À Madagascar, l'épidémie de Covid-19 a dépassé cette semaine la barre des 10 000 cas, dont 105 morts. Les nouvelles contaminations quotidiennes augmentent, alors que le président malgache a vanté l'efficacité d'un remède sous forme de tisane. Le ministre de la Santé, qui avait osé demander l'aide pour faire face à la propagation du virus, a été limogé. Claire Morin-Gibourg a joint une journaliste qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Bien, écoutez, ce n'est pas un réel plaisir de le dire, mais le cas à Madagascar est assez alarmant. On est passé de 3 cas au mois de mars et actuellement on a dépassé le cap des 10 000 cas actuellement. Les hôpitaux sont bondés, d'où la création de 4 nouveaux centres de traitement du Covid, rien que dans la capitale, Antananarivo. L'épicentre de la maladie se trouve d'ailleurs dans la capitale et nous en sommes à 21 régions sur les 22 qui sont touchées. Je peux vous dire que la période hivernale actuellement ne facilite pas les choses pour les malgaches. C'est un peu la psychose car dès qu'on a une petite grippe, on se précipite dans les centres de santé, éventuellement dans les pharmacies, ce qui fait que certains médicaments demeurent introuvables.
Une certaine confusion règne dans les communications du gouvernement. Comment les autorités expliquent-elles l'augmentation des cas malgré la tisane prônée par le président de la République ?
Et oui, le ministre de la Santé a signé une demande d'aide d'urgence auprès de ses partenaires techniques et financiers. Une demande qui a été pointée du doigt par le gouvernement, selon son porte-parole, qui a classifié son homologue de la santé d'être dépassé par la crise. Récemment, le Premier ministre a remis les pendules à l'heure en faisant signer aux membres du gouvernement un code de conduite afin de sceller la solidarité gouvernementale qui est, je pense, un peu fragilisée et par la crise du Covid et par une crise interne.
Comment les Malgaches réagissent-ils à cette épidémie ? Croient-ils toujours aux vertus de la tisane présidentielle ?
Et pour ces... qui est de la découverte de la tisane, je pense que les avis sont assez partagés au pays. Il y a ceux qui y croient fortement, il y a ceux qui restent prudents quand même. Ces derniers pensent que la tisane a été trop politisée. Évidemment, il y a des personnes qui témoignent avoir été guéries par le CVO, mais il y a aussi ceux qui en ont bu, mais qui ont été tout de même touchés par le virus, bien qu'on vante le caractère préventif et curatif du CVO. Je peux vous dire que le Covid organique fait partie intégrante du protocole de guérison du Covid-19 dans les hôpitaux malgaches et également auprès des malades qui sont soignés à domicile.
Une journaliste malgache qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Le 31 juillet est célébré en Afrique la journée de la femme africaine. À cette occasion, notre correspondante à Lomé revient sur la situation des femmes togolaises 25 ans après la 4e conférence mondiale sur les femmes tenue en septembre 1995 à Pékin en Chine. Kay Lawson.
Cette année 2020 marque les 25 ans de la conférence de Beijing, considérée comme un repère dans la lutte pour l'effectivité des droits des femmes, notamment l'égalité des droits entre hommes et femmes. Un quart de siècle après, Solange Fiati, directrice exécutive de l'association Aléréike, se souvient de cette grande rencontre qui a suscité de l'espoir auprès des jeunes filles.
En 1995, je commençais déjà à militer dans Amnesty, voir toutes ces femmes que j'admirais et que je continue d'admirer se préparer pour participer à cette grande rencontre des femmes du monde entier, était pour moi un peu ma porte d'entrée dans le monde des défenseurs des droits humains. Parce que je me disais que de cette conférence devaient sortir des solutions pour tous les problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans la jouissance de leurs droits.
Dans sa déclaration, la conférence de Beijing relève que les droits des femmes sont des droits fondamentaux de la personne. Mais malheureusement, dans certaines zones au Togo, notamment les milieux ruraux, des poches de résistance subsistent encore. Conforte Kadisa Lamboni, directrice du réseau des femmes et développement des savanes.
Il existe encore dans la région des savanes des femmes et des filles qui subissent des stéréotypes, des violences physiques, psychologiques, économiques, des pratiques barbares, rétrogrades, sexistes, qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux et à la liberté de choix et d'intégrité physique.
Même si la situation n'est pas celle qu'auraient espéré les défenseurs des droits de la femme, la déception n'est pas non plus au rendez-vous. Nous retrouvons Solange Fiati, directrice exécutive de l'association Aléréike.
25 ans après, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce que, au Togo par exemple, le cadre juridique de protection de la femme est amélioré. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui se lèvent, qui s'organisent, pour protéger, défendre leurs droits. Moi, à mon époque, lorsque j'essayais de défendre les droits humains, j'étais une rebelle. Mais aujourd'hui, nos jeunes sœurs ne sont plus rebelles. Elles sont respectées. Et ça, c'est une fierté.
À l'issue de la conférence de Beijing, un programme d'action a été élaboré pour contribuer à une avancée significative dans le respect des droits des femmes. Une génération après, l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme, AGPF, estime qu'il est temps de changer de stratégie de lutte. Laure Amoussou Amana, présidente de cette alliance.
En cette année où nous commémorons les 25 ans de la conférence, c'est donc une opportunité pour les organisations de défense des droits de la femme, les activistes, les défenseurs de l'équité genre, de revoir un peu les stratégies, impliquer les hommes pour qu'ils puissent comprendre que les droits de la femme, c'est le droit de la communauté, parce qu'une femme qui est épanouie est une femme qui contribue autrement à sa communauté. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que si l'homme comprenait réellement le bien fondé de cette lutte pour l'équité genre, on aura plus de résultats.
Le plan d'action de Beijing est un document complet, mais qui souffre de quelques lacunes auxquelles il faut remédier pour relancer la lutte, sujet à la défenseur des droits de la femme, conforte Kadisa Lamboni.
La conférence de Beijing a accouché d'un plan d'action assez complet qui n'a pas simplement énuméré les objectifs à atteindre, mais également des mesures pratiques pour y arriver. Même si au constat du chemin reste à faire, donc le monde entier doit garder confiance car le plan d'action reste guide rassurant auquel il suffit d'ajouter de la sincérité et de l'applicabilité des lois.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.